Après une petite semaine de pause, on va reprendre aujourd'hui notre parcours. Un parcours qu'on a entamé il y a 3 semaines, si je compte bien. Un parcours durant lequel on étudie ensemble les livres 1 à 11 de la Genèse. Ces textes qui racontent les débuts de l'histoire de la Terre, les débuts de l'humanité. C'est pour ça qu'on avait appelé cette série de prédications « Il était une fois ». Alors le premier dimanche de notre parcours, on avait étudié le récit de la création, Genèse 1. Dieu, unique mais trois en même temps, c'est un peu mystérieux, a créé toute chose bonne et belle. Et parmi ses créatures, il a choisi les humains pour être ses représentants. Les humains doivent prendre soin de la création et en retour, ils reçoivent en cadeau de pouvoir vivre une relation personnelle avec leur créateur. Mais lors du dimanche suivant, on avait étudié Genèse 2 et 3, le récit de la chute. Les humains avaient le choix entre deux chemins de vie. D'un côté, ils pouvaient s'en remettre à Dieu en toute chose, lui faire confiance et vivre éternellement dans une relation parfaite avec leur créateur. Ou bien ils pouvaient rejeter cette relation. Ils pouvaient décider de choisir eux-mêmes ce qui est bien ou mal pour eux. Mais s'ils le faisaient, ils se coupaient de la relation à Dieu, cette relation qui donne la vie. Et donc s'ils s'en coupent, ils vont doucement vers la mort. Alors le choix nous paraît évident. On a envie de dire « choisissez la vie !» Ça serait tellement débile de choisir la mort. Et pourtant, dans nos textes, on a vu que l'orgueil des humains a pris le dessus. Ils ont choisi de rejeter Dieu, pensant pouvoir vivre librement ainsi. Mais ils n'ont fait que se tromper. Ils se sont coupés de l'amour et de la vie éternelle que leur donnait gratuitement leur Créateur. Pourtant, Dieu reste fidèle. Et il annonce qu'il a un plan. Il a un plan pour réconcilier l'humanité avec lui-même, pour sauver les humains, pour les pardonner, leur pardonner cette révolte, cet abandon, pour les accueillir à nouveau dans sa relation et leur donner accès à la vie en abondance. La suite de la Genèse au chapitre 4, que nous n'étudierons pas, on ne peut pas étudier tous les chapitres en 4 dimanches, le chapitre 4 ne fait que confirmer tout le mal que l'humanité a choisi de suivre. Le chapitre 4 de la Genèse nous raconte le récit du premier meurtre, celui de Caïn qui tue son frère Abel. Mais même là, Dieu reste fidèle. Il continue de prendre soin des êtres humains, il continue à leur donner ses dons, ses bénédictions quotidiennes. Et nous en arrivons au texte que nous allons étudier aujourd'hui, les chapitres 6 à 9 de la Genèse, le récit du déluge. Alors on va pas tout lire, il y a quand même 4 chapitres, ça serait un peu trop long. On va lire plusieurs petits passages qui nous racontent l'essentiel de ces 4 chapitres. Et je vous invite à suivre ces lectures. Et je commence au verset 5 du chapitre 6. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre, et il en eut le cœur très affligé. Il dit alors, « Je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Oui, j'exterminerai les hommes et les animaux jusqu'aux bêtes qui se meuvent aux rats de terre et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Un peu plus loin au verset 11. Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre. Il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car, à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais les détruire, ainsi que la terre. Mais toi, construis un grand bateau en bois résineux. » Un peu plus loin, au verset 17, « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire sous le ciel tout être animé de vie. » Tout ce qui est sur la terre périra, mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme et tes belles-filles avec toi. Tu feras aussi entrer dans le bateau un couple de tous les êtres vivants, c'est-à-dire un mâle et une femelle de tous les animaux, pour qu'ils restent en vie avec toi. De toutes les sortes d'oiseaux, de quadrupèdes et d'animaux qui se meuvent à ras de terre, un couple viendra vers toi pour pouvoir rester en vie. Procure-toi aussi toutes sortes d'aliments et fais-en provision pour vous en nourrir, toi et eux. Noé obéit et fit tout comme Dieu le lui avait ordonné. Puis l'Éternel dit à Noé, « Entre dans le bateau, toi et toute ta famille, car je ne vois que toi qui sois juste au milieu de tes contemporains. » Un peu plus loin, au verset 22. « Tout ce qui respirait sur la terre ferme mourut. Ainsi l'Éternel effaça de la surface du sol toutes les créatures vivantes depuis l'homme jusqu'au bétail, y compris les animaux qui se meuvent à ras de terre et les oiseaux du ciel. » Ils furent effacés de la terre, et il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans le bateau. La crue des eaux au-dessus de la terre dura 150 jours. Mais Dieu n'avait pas oublié Noé. Un peu plus loin, au verset 14 du chapitre 8, le 27e jour du deuxième mois, la terre était complètement sèche. Alors Dieu dit à Noé, « Sors du bateau avec ta femme, tes fils et tes belles-filles, fais sortir aussi tous les animaux qui sont avec toi, les oiseaux, les bestiaux et les bêtes qui se meuvent à ras de terre, qu'ils se répandent sur la terre et qu'ils s'y reproduisent et s'y multiplient. » Et encore un peu plus loin, au verset 7 du chapitre 9, « Vous donc, soyez féconds, multipliez-vous et répandez-vous en grand nombre sur la terre. » Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « Pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, ainsi qu'avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bétail et bêtes sauvages, tous ceux qui sont sortis du bateau avec vous, et ils peupleront la terre. Je m'engage envers vous par alliance, à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge, et qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. » Et on va arrêter là, cette lecture. Alors, avant de commencer à chercher ensemble le sens de ce texte, il y a une question que tout le monde doit peut-être se poser. Ça s'est vraiment passé ou pas? En gros, on peut se poser la même question que durant les dimanches précédents. C'est un récit historique ou est-ce que c'est imagé, stylisé, un peu poétique? Alors, depuis le début de la Genèse, à chaque fois qu'on s'est posé la question, on en est toujours arrivé à la conclusion que les récits racontaient des événements vrais, mais de manière poétique, stylisée, imagée. Comme le dit le théologien Henri Blocher, ces textes ne sont pas des récits historiques, mais des récits poétiques d'événements historiques. Et ici, on a bien l'impression que c'est la même chose. Regardons par exemple les durées, les notions de temps qu'on trouve dans ce texte. 7 jours avant le déluge, Dieu prévient Noé du cataclysme. Puis 7 jours après cette annonce, ça se réalise. Puis il y a 40 jours de montée des eaux, puis 150 jours de crue, puis ensuite c'est l'inverse. 150 jours de décrue, puis 40 jours au bout desquels Noé lâche un corbeau, puis 7 jours de plus et Noé lâche une colombe, enfin encore 7 jours et Noé recommence. 7, 7, 40, 150 et puis l'inverse, 150, 40, 7, 7. Tout est fait ici pour nous montrer que ces durées ne sont pas historiques, elles sont stylisées. Si ça ne suffit pas, on peut aussi regarder rapidement la structure globale de ce texte, même si on n'a pas tout lu. Le récit débute par Noé qui est présenté comme juste. Puis, une partie du texte nous raconte la décision de Dieu de détruire la terre par les eaux, les instructions que Dieu donne à Noé pour sa survie, les instructions qu'il donne au sujet de la nourriture, puis une promesse de conclure une alliance. Viennent ensuite l'entrée dans l'arche, puis la crue, et au centre de ce texte se trouve le tournant de ce récit, le centre, le sommet. Dieu se souvint de Noé. ce tournant qui montre la fidélité de Dieu. Et après ce tournant, le texte recommence, mais cette fois en sens inverse. Il y a la décrue, puis la sortie de l'arche, puis un passage qui comprend la décision de Dieu, cette fois de ne plus détruire la terre par les eaux, les instructions qu'il donne à Noé pour la vie sur terre, les instructions qu'il donne pour la nourriture, puis l'alliance que Dieu passe avec les hommes. Et enfin, le texte finit par l'inverse de son commencement. Au début, Noé était présenté comme juste. À la fin, Noé se révèle être pécheur. Tout le récit, toutes les durées, tout est fait pour nous montrer que ce texte est travaillé, stylisé, qu'il contient une forme de poésie. Encore une fois, nous n'avons pas ici un récit historique, mais un récit imagé racontant des événements historiques. Les événements ont vraiment eu lieu, mais ce texte ne nous raconte pas comment ils se sont déroulés, il nous raconte le sens de manière stylisée et poétique, le sens de ces événements. Une autre question que tout le monde doit se poser et que je vais traiter très rapidement, on n'a pas le temps de tout voir sur quatre chapitres à fond, si ce texte stylisé prend quand même pour base des événements réels, est-ce que cette inondation a été à l'échelle du monde ou pas ? Eh bien, en fait, finalement, rien dans ce texte ne permet d'affirmer que ce cataclysme a touché la terre entière. Tout simplement parce que, enfin, on ne s'en rend pas bien compte en français, mais le mot hébreu qu'on traduit souvent par « terre », sur toute la terre, recouvrit la terre dans ce texte. Eh bien, en hébreu, ce texte a deux autres sens. Il veut aussi dire « pays » et « région ». Et dans la Bible, ce mot est utilisé de la même manière pour dire ces trois choses. Terre, terre entière, pays ou région. Et en plus, nous l'avons vu, le récit est stylisé, les détails sont imagés, comme les durées, donc on ne peut pas se fier aux détails de ce texte pour affirmer quoi que ce soit d'historique. Nous savons que des événements qui y ressemblent ont dû se passer, ce texte nous en raconte le sens, pas les détails. Alors, il y a deux solutions. Soit ce texte raconte bien un cataclysme à l'échelle mondiale, et dans ce cas, de toute façon, le sens de ce texte a un impact sur toute la Terre aussi, pour toute l'humanité. Soit ce texte peut aussi raconter un cataclysme local, régional, mais qui est un sens mondial, qui peut s'appliquer à toute l'humanité, ce que ferait l'auteur biblique. Alors j'avoue que, personnellement, une étude plus approfondie du texte me fait pencher plus pour la deuxième solution, celle d'un phénomène local qui a une signification mondiale, mais peu importe quelle hypothèse vous préférez, peu importe, ça ne change strictement rien au sens de ce texte, à ce qu'il veut nous transmettre. Alors justement, si ce texte est là pour nous transmettre le sens d'un événement sans nous en donner les détails historiques réels, quel est ce sens ? Eh bien, je retiendrai trois choses que ce texte nous apporte. Tout d'abord, la Genèse nous avait jusque-là surtout présenté Dieu comme un créateur tout-puissant et rempli d'amour pour ses créatures. Maintenant, la Genèse nous présente également Dieu comme un juste juge qui ne déclare pas innocent celui qui est coupable. Le déluge, c'est pas une décision arbitraire de Dieu. C'est le juste résultat de tout le mal que les hommes ont commis. Vous savez, il y a d'autres textes de Mésopotamie, du Proche et Moyen-Orient ancien, qui racontent un déluge, notamment un texte justement de la région de Mésopotamie, qui nous raconte que il y a eu un déluge, mais dans ce texte-là, qui ne fait pas partie de la Bible, la raison du déluge, c'est que les dieux de ce peuple en avaient marre de tout le bruit que faisait l'humanité. Ça faisait trop de bruit, ça leur cassait les oreilles, c'est ce que dit le texte, alors ils ont décidé de supprimer l'humanité entière. Ça, c'est une décision arbitraire. Le déluge, dans la Bible, n'est pas une décision arbitraire de Dieu, c'est le juste résultat de tout le mal que les hommes ont commis. Et je vous relis deux très courts passages au chapitre 6. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre, et il en eut le cœur très affligé. Puis plus loin, aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui se passait sur la terre, il vit que le monde était corrompu, car toute l'humanité suivait la voie du mal. La Bible nous a raconté, nous l'avons étudié dans le dimanche précédent, comment l'humanité a décidé de ne pas tenir compte de Dieu dans sa vie. Les hommes ont choisi de décider librement de ce qui était bien ou mal pour eux. Mais ils se sont trompés. Ils font le mal qu'ils ne veulent pas, parfois. Et ils ne font pas tout le bien qu'ils désiraient faire. Les humains désirent le bien. Ce texte est très négatif au final vis-à-vis de l'humanité. Toute l'humanité ne pratique que le mal. Moi, j'observe quand même beaucoup de personnes de bien autour de moi, qui recherchent le bien, qui veulent le bien, mais qui ne font pas tout le bien que ces personnes désirent. Les humains désirent le bien, ils recherchent le bien, ils essaient de pratiquer le bien. Mais malheureusement, ils n'y arrivent pas, ou plutôt ils n'y arrivent pas toujours. Le mal fait partie de l'être humain, parce que les hommes se sont coupés de Dieu. Et comme nous le montre ce texte, Dieu est juste, avec lui le coupable n'est pas déclaré innocent. Mais même dans la justice, Dieu reste rempli d'amour. Il n'abandonne pas Noé, celui qui s'en remettait à Dieu dans sa vie. Il le protège du cataclysme, il l'avertit, il lui donne des instructions, et comme Noé s'en remet à Dieu, il croit en Dieu, il obéit à Dieu, et il est sauvé. Et n'oubliez pas le tournant de notre texte, ce sommet, ce point culminant du récit, Dieu se souvint de Noé. Le centre de ce texte, malgré l'ampleur du jugement qui est raconté, c'est que Dieu reste fidèle envers ceux qui se tournent vers lui. Dieu est un juste juge, mais sa justice est remplie d'amour. Et en toute chose, il reste fidèle envers ceux qui croient en lui. Une deuxième chose que ce texte nous apporte, c'est des précisions un peu sur la manière que Dieu va utiliser pour sauver l'humanité. En effet, après la chute, Dieu avait promis qu'il ferait quelque chose pour sauver les hommes, pour les racheter, pour leur pardonner leur rébellion, par amour pour eux, tout en restant juste, mais on n'en savait pas plus. Eh bien, ce récit du déluge explore plus en profondeur le problème central de l'humanité. Dans notre texte, Dieu vient sauver ceux qui croient en lui d'un jugement extérieur. Mais à peine cet épisode est fini que déjà Noé commet le mal. On n'a pas lu ce passage, mais Noé est finalement présenté pécheur dès la fin du déluge, dès l'alliance conclue avec l'Éternel. Lui, qui était présenté comme juste, nous découvrons en fait qu'il ne l'est pas totalement. Parce que ce que nous montre ce texte, c'est que le mal, c'est pas un problème extérieur à l'être humain qui peut se régler par un jugement extérieur à nous-mêmes. C'est un problème intérieur à l'être humain. C'est pas en nous sauvant physiquement que Dieu réglera notre problème. Il pourrait très bien recommencer, juger les coupables, ça serait que justice, mais ça ne réglerait rien. Alors Dieu promet de ne pas recommencer dans ce texte, parce que ce qu'il désire, c'est pas condamner les êtres humains, c'est les sauver par amour pour eux. Alors si le problème n'est pas extérieur, ça veut dire que pour nous sauver, Dieu va devoir nous changer de l'intérieur. Il va devoir changer notre cœur, traiter notre problème à son niveau le plus profond. Et c'est ce qu'il fait chez les croyants, chez ceux qui se tournent vers lui. Lorsque nous acceptons le Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes pardonnés, justifiés, sauvés par Dieu, mais Dieu ne s'arrête pas là, il nous donne également son Esprit en nous pour venir changer notre cœur, pour nous changer petit à petit, pour nous guider et nous permettre de retrouver pleinement la relation que Dieu désire avoir avec chacun d'entre nous, cette relation dont nous avons besoin et qui nous donne la vie jusque dans l'éternité. Enfin, une troisième chose que ce texte nous apporte, c'est un modèle. Un modèle de foi, un modèle de vie. Noé, même s'il n'est pas parfait, justement, c'est pour ça qu'il peut être notre modèle, parce qu'il n'est pas parfait et qu'il est présenté comme pécheur à la fin de ce texte, Noé était le seul à être averti que Dieu allait juger les humains. Mais est-ce que ce n'est pas aussi notre cas ? Dans notre société, si on va dire aux gens que le bien qu'ils font ne peut pas racheter le mal qu'ils font aussi, si on les avertit qu'un jour Dieu demandera compte des actes de chacun, si on leur révèle qu'en Jésus-Christ, Dieu nous offre un moyen gratuit de recevoir son pardon, définitivement, si on annonce tout ça, parfois on nous rit au nez, on nous croit pas, ou on nous prend pas au sérieux. C'était la situation de Noé à son époque, c'est la nôtre encore aujourd'hui. De même, à son époque où tout le monde vivait finalement paisiblement, j'ai envie de dire, dans la pratique de ce qui est mal, Noé était le seul qui cherchait vers Dieu ce qui est bien et mal. Mais est-ce que c'est pas non plus notre cas à nous aujourd'hui ? Autour de nous, dans certains domaines, le mal n'est-il pas devenu parfois la pratique courante, majoritaire ? Et dans notre relation avec Dieu, nous devons parfois vivre à contre-courant de ceux qui nous entourent, même si ça peut paraître étrange à leurs yeux. C'était le cas de Noé, ça l'est encore pour nous aujourd'hui. Ou encore, Dieu ne demande pas à Noé d'avoir une foi passive, il ne demande pas à Noé de croire en lui et de juste attendre que ce jugement vienne, et puis voilà. Non, Dieu lui demande de se mettre en action. Il lui demande d'abord de construire une arche. Et la deuxième épître de Pierre nous dit qu'après avoir été averti par Dieu, Noé appelait ses contemporains à mener une vie juste pour leur éviter ça. Dieu veut que Noé croie en lui et que ça le mette en action. Est-ce que c'est pas notre cas à nous aujourd'hui ? Lorsque Jésus nous appelle à lui, il ne nous demande pas de juste paisiblement attendre le jugement avec l'assurance de notre salut personnel, paisiblement. Non, il nous ordonne d'aller avertir tous les hommes, d'annoncer ce qu'il nous a révélé, d'apporter son évangile, cette bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour toute l'humanité et du salut gratuit en Jésus-Christ. Et comme Noé devait construire une arche, nous sommes appelés à notre niveau à participer à la construction, à l'édification du peuple de Dieu, l'Église. Tout comme Noé, nous sommes appelés à une foi qui se met en marche, pas une foi qui nous fait paisiblement attendre avec l'assurance de notre propre salut. Finalement, ce texte nous apporte tout d'abord un enseignement sur Dieu lui-même. Dieu est pleinement amour, mais Dieu est également parfaitement justice. Le Dieu d'amour, c'est un sujet très à la mode, ça rassure un peu tout le monde, parce que si Dieu n'est qu'amour, ça va, on peut faire ce qu'on veut, vu qu'il nous aime, on n'a rien à craindre. Mais l'amour de Dieu reste juste, et en toutes circonstances, tout comme sa justice est toujours marquée par son amour. Puis ce texte nous apporte un enseignement sur nous-mêmes. Il faut être lucide sur ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas nous sauver tout seuls, tout simplement parce que notre problème, il est intérieur. Il n'y a que Dieu qui puisse venir nous pardonner. Et il le fait en Jésus-Christ. Il n'y a que Dieu qui puisse venir nous changer. Et il le fait par son Esprit. Enfin, ce texte nous donne un modèle de vie, un modèle de foi. Noé, qui recherche le bien selon Dieu, même si pour cela il doit parfois vivre à contre-courant de ses contemporains. Noé, à qui Dieu révèle son amour et sa justice et qui doit ensuite se mettre en marche pour annoncer aux hommes que Dieu les aime et qu'il désire les sauver de ce jugement qui va venir. Noé, qui doit construire une arche, tout comme les croyants sont appelés à édifier, à construire le peuple de Dieu, l'Église. Il était une fois, c'est le titre de notre série de prédications, il était une fois un Dieu créateur tout-puissant, plein d'amour pour ses créatures. Mais les humains l'ont rejeté pour vivre leur vie sans lui. Dans sa justice, il en viendra à juger en toute justice selon les actes de chacun. Il le montre par le déluge. Mais dans son amour, il désire les sauver pour leur donner la vie jusque dans l'éternité. Et il le prouve en sauvant Noé. Mais l'humanité saura-t-elle rebondir après cet avertissement qui lui est donné ? Eh bien, nous verrons cela la prochaine fois.